Saviez-vous que James Bond avait un illustre prédécesseur et que, question gadget, l'agent 007 avait tout à envier à un héros grec, Persée. Jean-Pierre Vernon, professeur honoraire au Collège de France, spécialiste de la Grèce ancienne, nous raconte le triomphe de Persée sur la mort elle-même.
La mythologie grecque, Jean-Pierre Vernon, est peuplée de monstres et c'est le rôle des héros de chasser cette engeance du monde. Ainsi, Édipe tue le sphinx, Hercule tue l'hydre de Lerne, etc., etc. Alors vous, vous avez choisi de nous raconter l'histoire de Persée, une sorte de Superman qui va s'attaquer à Méduse.
Oui, Superman, hein. Alors, comment on se présente cette histoire? Dans la bonne ville d'Argos, il y a un roi, Crésios, qui a une petite fille, jeunette et très belle, du nom de Danaé. Et il est malheureux parce qu'il voulait un garçon. Il va à Delphes, selon l'usage, consulter qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir un. Et l'oracle lui répond seulement « Ton petit-fils, le fils de ta fille, te tuera. » Il rentre absolument bouleversé. Un homme averti en vaut deux. Sa fille s'appelle Danaé. Il la convoque, il fait creuser dans la cour de son palais une prison souterraine revêtue de bronze. Il y fait descendre Danaé avec une servante et il boucle le tout. Et il rentre chez lui content. Pendant ce temps-là, du haut du ciel, en haut de l'Olympe, dans l'éther, Zeus regarde ça et sourit en pensant à la naïveté des pères de famille. Et sous forme d'une pluie d'or, parce qu'il a vu Danaé, elle est ravissante, il en est tombé amoureux, et sous forme d'une pluie d'or, il pénètre dans cette soi-disant prison hermétique, et il s'unit à elle. Un petit garçon en vient, et c'est précisément Persée. Alors, tout cela est clandestin pendant un certain temps, et un beau jour, passant dans la cour, Acrisios entend des bruits bizarres dans sa prison. Il fait remonter tout le monde, il fait remonter Danaé, la servante, et le loupio. Et qu'est-ce que c'est que celui-là? Alors, Danaé lui dit, celui-là, c'est Zeus qui me l'a fait. Tu me prends pour un imbécile, qu'est-ce que je veux pas croire des sornettes pareilles? Et il accuse la servante d'avoir fait rentrer clandestinement un jeune gaillard qui aurait accompli avec Danaé ce qu'il ne fallait pas. Que faire? La servante, il la met à mort. Danaé est percé. Il fait venir un menuisier qui construit une caisse en bois. Et il décide, il ne veut pas les tuer, il ne veut pas avoir sur les mains le sang de sa fille et de son petit-fils. Et sur cette espèce de tiroir fermé, il jette à l'eau, sur l'immensité de la mer, Danaé, enfermée, non plus dans sa prison de bronze, mais dans la cache de bois, avec le petit Persée, pensant qu'il ne les tue pas, mais qu'ils périront obligatoirement, qu'ils finiront par...
En fait, il les expose.
C'est une exposition sur la mer, au lieu que ce soit une exposition sur la montagne. Et comme ça, le long des vagues, un pêcheur de Sériphos, mais un pêcheur de lignée royale, Dictys, c'est le nom d'un filet d'ailleurs, jette ses filets et les ramène. Il est séduit par Danaé, il l'accueille, non pas comme son épouse, comme une sorte de fille, il la respecte, et du petit Persée, il fait en quelque sorte son fils adoptif. Il a un frère qui est le roi de Sériphos.
Polydectès.
Et Polydectès, quand il voit Danaé, se dit « Celle-là, elle est pour moi, c'est exactement ce qu'il me faut. » Mais il n'y arrive pas, d'une part parce que Dictys veille sur elle, et parce que Persée grandit, il est devenu un jeune homme, 16 ans, et...
Il veille sur sa mère.
Il veille sur sa mère avec un soin jaloux. Alors Polydectès envisage une solution, il... donne un grand banquet où il réunit toute la jeunesse de Sériphos et des îles d'alentour. Chacun vient avec apportant son écho, c'est ce type de banquet où chacun amène quelque chose.
On dit même que ça pourrait être des noces, qu'il feint même des noces avec Hippodamie, non?
Il parle, il prétend qu'il doit faire des noces avec Hippodamie, cette jeune femme qui court sur des chars, et par conséquent, il demande à tous les jeunes gens de lui apporter des cadeaux, spécialement des chevaux, pensant que la jeune fille sera émue par de belles cavales ou par de beaux chevaux. Et alors tout le monde a bu un peu, comme il est normal, après un banquet, et le jeune Persée, qui n'est pas riche, qui n'a pas grand-chose, et qui voit tous les autres proposer ou des cadeaux somptueux ou des chevaux, veut faire mieux. Et il dit, mais moi, j'amène ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez, je vous amène la tête de la Gorgone.
Il bluffe, là.
Il bluffe, oui, il se vante. Il parle. Alors, personne ne relève, mais le lendemain, quand Persée va voir le roi et lui dire « Bon, mais je vais essayer de trouver une cavale », il lui dit « Non, non, toi, la tête de la Gorgone ». Et voilà l'histoire qui commence.
Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette Gorgone?
Alors, cette Gorgone, elle fait partie, elle s'appelle Méduse, et elle est la seule mortelle de ses trois sœurs, qui sont des monstres immortels, qui vivent au-delà du cosmos, presque dans un endroit que personne ne connaît. Donc il faut, le roi lui ayant dit, vas-y, tu ne reviendras pas avant de me ramener cette tête, qu'est-ce qu'il va faire? Il est quand même le fils de Zeus, il est un demi-dieu, il a une dimension héroïque comme Achille ou comme d'autres. Donc il se met en route, et là Athéna et Hermès décident de le protéger et de lui permettre ce haut fait. Alors il faut d'abord savoir où sont les Gorgones. Et pour cela, il faut d'abord joindre trois sœurs aussi.
Les Grées.
Les Grées, les Graiailles. Et qui sont quoi? Qui sont des jeunes filles, mais des jeunes filles vieilles. Elles sont nées des vieilles demoiselles. Elles ont la peau toute ridée, elles sont affreuses. Elles ont la peau comme celle du lait, quand il se flétrit,
caillé,
jaune, sale. Elles sont dégoûtantes à voir. Toutes les trois forment un trio indissoluble. Elles ont à trois un seul œil et une seule dent. C'est pas lourd, c'est pas mal. Parce que comme elles n'ont qu'un œil, ils ne ferment jamais. Quand il y en a une qui se sert de cet œil, qui est fatiguée, elle le passe à la voisine, et il y en a toujours une qui a l'œil ouvert. Une seule dent, mais après tout, il suffit, quand on est une jeune fille édentée comme une vieille, d'avoir la dent qu'il faut pour manger même des gens comme Persée. Alors Persée arrive à l'endroit où sont les Grées, et là il fait un peu ce que je faisais étant enfant, quand on jouait autour d'une corde, les gens se passaient une bague, et il fallait deviner où est la bague.
La bague d'or.
La bague d'or qui passe de main en main, il faut qu'il ait le coup d'œil. C'est un récit où la vision, l'œil, le coup d'œil, la rapidité du regard, l'efficacité du regard est fondamentale. Hop, il attrape l'œil, au moment où cet œil a quitté le visage d'une des Grées, mais qui n'est pas encore intégré au visage de la voisine. Alors les Grées sont éplorées, elles lui demandent de rendre cet œil, elles sont désarmées, toutes divines qu'elles soient, sans œil, qu'est-ce qu'on peut faire aveugle? Et il donne comme justificatif, je vous donne votre œil, si vous m'indiquez où je vais trouver, là encore, trois jeunes filles, trois nymphailles.
Les nymphes,
trois nymphes qui possèdent beaucoup de secrets, beaucoup de talismans. Les Grées indiquent le chemin pour les trouver. Et ces nymphes, qui sont des jeunes filles à la puberté, elles ne sont pas encore mariées, mais elles pourraient l'être, elles sont nubiles. Quand elles voient Persée, elles sont prêtes à lui donner beaucoup de choses, et elles lui indiquent comment il peut trouver les Gorgones, et elles lui donnent, d'une part, ce qu'on appelle le casque d'Hadès, la queue des haies, une espèce de toque en peau de chien, qui recouvre la tête des morts et qui les rend invisibles. Donc, privilège d'invisibilité. Elles lui donnent aussi les sandales d'Hermès, avec
des petites sandales ailées, comme ça.
Qui permettent de voler dans les airs, comme la pensée, comme les oiseaux. On ne touche pas terre, on vole à travers les airs. Elle lui donne en même temps une besace pour pouvoir y mettre la tête de la Gorgone, une fois qu'il l'aura coupé, sinon le regard de la Gorgone, ce regard mortifère, jetterait la mort tout autour de Persée. Et en même temps, Hermès lui livre une faucille, cette faucille même avec laquelle Cronos a châtré Uranos, une harpée, et ça coupe. Et le voilà parti. Alors quel est le problème? Les Gorgones sont des êtres monstrueux. Deux sont immortels, une est mortelle. Mais celle qui est mortelle, même quand sa tête sera coupée, d'une certaine façon, sa tête restera vivante et ses yeux continueront à lancer cette flamme qui est la mort même. Elles ont la mort dans les yeux. Les yeux, on voit et on est visible, c'est la lumière du soleil qui s'y reflète, et là c'est le contraire. Ce qu'elles ont dans les yeux, c'est la mort.
Mais comment est-ce qu'on sait qu'une des gorgones, Méduse, est mortelle et pourquoi est-ce qu'elle l'est?
Oh ben ça, il faut demander au mythe grec, mais il ne s'explique pas là-dessus. Après tout, pourquoi pas? Comme ce sont des monstres, ce sont des hybrides. Elles conjoignent la mortalité et l'immortalité. Ce sont des femmes, mais la tête de la gorgone est barbue. Elles sont en même temps masculines. Ce sont des êtres humains. Elles ont un visage, mais elles ont en même temps des ailes d'or. Elles peuvent voler. Elles ont des membres qui sont des membres d'acier ou de plomb, aussi lourdes, qui démentent en quelque sorte cette capacité de voler. Et elles ont en même temps dans cette figure humaine une dentition qui est une dentition bestiale, en particulier deux dents comme des défenses de sangliers qui sortent de la bouche. Et elles ont d'autre part un espèce de rictus avec la langue qui pend au dehors, ce qui devrait être au-dedans est au-dehors. Et elle pousse un cri qui est un cri guttural qui vous glace de terreur. La mort en personne, le visage de la mort, s'il faut donner un visage à la mort. Alors la difficulté, c'est que la spécialité des Gorgones, c'est ce pouvoir de changer en pierre tous ceux qui rencontrent leur regard, qui le croisent. Changer en pierre. On ne devient pas seulement, on n'est pas seulement mort, en quelque sorte c'est pire, on est changé en ce qui est le contraire de la vie. La pierre, elle est froide, elle est imperméable au soleil, elle est aveugle, elle est rugueuse, elle est immobile, alors que l'être vivant, il a ses yeux qui lui font voir, il baigne dans la lumière, il est tiède, il est doux, il est mobile, Le changer en pierre, c'est en quelque sorte être transformé de la vie en minéral, en quelque chose d'absolument opaque, le contraire de la vie. Alors voilà, c'est ça l'enjeu. Comment est-ce qu'on peut couper la tête de créatures, c'est-à-dire les regarder pour savoir où il faut manier la serpe? Comment est-ce qu'on peut arriver à ce paradoxe? Le paradoxe, c'est comment se rendre maître de la mort sans qu'en quelque sorte tomber face à face avec la mort et être soi-même changé en mort, pire qu'en mort, une pierre, devenir pierre. C'est ça le paradoxe. Athéna explique un peu comment il faut faire. Il faudrait tourner la tête au moment où on coupe, mais si on tourne la tête au moment où on coupe celle de Méduse, les deux autres étant endormies, on risque de ne pas ajuster son cou comme il faut. Il faudrait avoir un coup d'œil qui soit en même temps absolument bien ciblé et en même temps ne pas voir la cible. Paradoxe.
Alors là, Athéna va apporter une aide formidable.
Athéna va, à partir d'un certain moment dans l'histoire, résoudre le problème. Elle résout le problème en présentant, en plaçant les deux gorgones immortelles ont fermé les yeux, Méduse est là, en face de Méduse, Athéna dispose son bouclier poli en bronze, les miroirs sont en bronze poli, c'est du même métal que le bouclier lui-même. Par conséquent, il y a une solution au problème, la solution consiste à regarder Méduse et à la voir sans que ce soit tout à fait elle. Non pas Méduse en personne, mais Méduse en reflet, Méduse en image. C'est-à-dire que il y a déjà l'idée que d'une certaine façon, ce qui est, et c'est ça qui définit la méduse aux yeux des Grecs, il est dit qu'elle est, on ne peut pas dire ce qu'elle est, elle est indicible et elle est invisible. Elle est quelque chose, méduse, en tant qu'elle est la mort, elle représente ce qui est absolument impossible de penser, le monstrueux, et c'est ça, l'impensable. Mais d'une certaine façon, l'homme, l'image, peut-être, j'anticipe, l'art, la peinture, la sculpture, arriveront à désarmer le pouvoir maléfique de cette tête, de telle sorte qu'on pourra l'exhiber, Athéna va l'exhiber sur son bouclier, les métallurgistes à Athènes l'exhiberont sur leur four comme un mauvais œil pour chasser les esprits méchants qui pourraient faire casser la vaisselle à l'intérieur de leur four. Donc il y a déjà là une espèce de réflexion sur les rapports entre l'image et la réalité. Ces images ne sont pas rien, ça n'est pas un pur faux-semblant, sinon on ne pourrait pas les utiliser pour effrayer l'adversaire sur les boucliers. Donc il y a là un statut qui est un statut inquiétant que le mythe essaye de faire comprendre. Il arrive, il coupe la tête de la méduse, il l'attrape, il la met dans sa besace, mais la méduse, au moment où elle meurt, pousse un hurlement, réveille ses deux sœurs, et voilà les deux gorgones à la poursuite de Persée. Mais lui, il est véloce comme elle, et en plus invisible. Alors elle le cherche partout avec des cris de rage, et elle n'arrive pas à mettre la main dessus. Alors volant dans les airs, il arrive au-dessus de la mer, au-dessus d'un petit rocher, où il aperçoit en dessous de lui une femme, très belle, Andromède, qui est accrochée au rocher par des espèces de chaînes de fer. Pourquoi elle est là? Parce que son père a été obligé de le faire. Elle est livrée sur ce roc à un monstre marin particulièrement dangereux que Persée voit apparaître dans la mer, soulevant des flots d'écume monstrueux. Qu'est-ce qu'il va faire de cette malheureuse? Je préfère ne pas y penser. Ou il la tue, ou il la mange, ou il s'unit à elle, ce qui ne vaut pas mieux.
Mais Persée aura retenu la leçon d'Athéna.
Persée a reçu la leçon d'Athéna, il ne l'a pas oubliée. Qu'est-ce qu'il fait? Il se place entre le soleil et la mer, au-dessus du monstre. De telle sorte que son reflet, son image, son ombre se projette juste devant le nez du monstre, qui voit ça, qui bouge devant lui, qui vole devant lui, et il s'imagine que c'est ça l'ennemi qui le menace. Il se jette avec violence, avec passion meurtrière contre cette ombre, et naturellement il n'a rien. Pendant ce temps-là, Persée descend et le tue pendant qu'il prend l'ombre pour la proie ou la proie pour l'ombre, suivant les formules bien connues. Voilà donc Andromède délivrée. Elle descend de son rocher avec l'aide de Persée, qui a reçu la promesse que s'il la délivrait, il pourrait l'épouser. Ils sont tous les deux sur le sable. Ils s'étendent un moment et alors Persée enlève sa sacoche. Dans sa sacoche, la tête est dissimulée, mais en la mettant sur le sable, il fait en sorte que le haut de la sacoche vient sous le nez de Méduse et que les deux yeux de Méduse, à fleur d'eau, en quelque sorte balaient toute la surface de la mer. Dans la surface de la mer, dans la mer, il y avait ces choses vivantes en même temps que sont des algues marines, vertes ou marron, qui se déployaient avec souplesse et flac d'un coup, elles sont figées et elles deviennent les coraux. Et c'est pour ça que nous avons des coraux dans la mer. Alors le brave Persée repart avec Andromède à Sériphos, il délivre sa mère et celui qui l'avait recueilli.
Dictys.
Oui, il le dirige, ils sont dans une espèce de temple où ils se réfugient parce qu'ils craignent Polydectès. Et Polydectès, sachant que Persée est revenu, Persée lui fait savoir qu'il lui apporte un cadeau magnifique. Alors, de nouveau, immense banquet, immense salle, avec tous les gens autour sur des lits ou sur des chaises, sur des lits plutôt, chacun buvant, devisant, riant, on attend Persée. Persée ouvre la porte, il aperçoit cette scène de banquet merveilleuse, au milieu, avec des gens sérieux, des gens ivres, d'autres qui sont déjà tombés. Il avance, il franchit le seuil, il sort la tête de Méduse qu'il tient par la tête, il regarde et il détourne la tête de l'autre côté, et alors, tous ces gens, à commencer par Polydectès, sont transformés en images. Ils deviennent des sculptures représentant le banquet. Ils sont changés d'homme en pierre, mais d'homme en pierre qui est l'image des hommes, changés en pierre par le pouvoir de la Méduse.
On comprend pourquoi les peintres se sont beaucoup inspirés de cette légende.
Bien entendu, c'était merveilleux, puisqu'ils faisaient un peu... Toute espèce de peintre fait ça, c'est-à-dire immobilise et transforme en image le spectacle qu'il a sous les yeux dans la nature. Voilà l'histoire, elle n'est pas tout à fait finie, bien entendu. Il rentre à Argos pour essayer de se réconcilier avec son grand-père. Là, il y a un incident fâcheux, il est convié à des jeux, au lancement du disque, où il est très fort, il lance le disque et le disque va frapper le pied de son grand-père et il mourra.
À partir de quoi l'oracle est accompli ?
À partir de quoi l'oracle est accompli, sinon ces histoires n'iraient pas. Il y a encore beaucoup de détails sur lesquels je passe, mais peu importe, ce que je veux dire, c'est que finalement, ce Persée qui affrontait la mort, et dont certains textes nous disent qu'il est le maître de la mort, à un moment donné, il a eu en main ce pouvoir mortifère qu'était la tête. Il s'en débarrasse, il la donne à Athéna, Athéna va la mettre sur son égide, et c'est avec ça qu'elle va ensuite l'emporter dans toutes les batailles.
L'égide, c'est le bouclier d'Athéna.
L'égide, c'est pas tout à fait le bouclier. L'égide, c'est cette espèce de collier qu'elle a, en peau de chèvre, où il y a la tête de la Gorgone, et qui a un pouvoir...
Pétrifiant l'ennemi.
Et bien entendu, les guerriers ne peuvent pas arriver à avoir la tête elle-même, mais ils ont l'image de la Gorgone sur leur bouclier, et quand ils s'avancent tous avec la tête de la Gorgone sur le bouclier, les gens d'en face sont pris de terreur à l'idée de ce qui les menace. Et cette tête de la Gorgone, on la retrouvera partout, on la retrouvera même dans les coupes de vin. Les coupes de vin, dans le fond, il y a une sorte de rond où on voit souvent la tête de Gorgo avec ses deux yeux, la langue hors de la bouche. Quand il y a du vin dedans, on ne le voit pas. Et le buveur qui a la coupe, il boit, et au moment où il a fini la coupe, que le vin est parti, il aperçoit dans le fond de la coupe cette tête qui lui dit « Attends un peu, ton heure viendra. Tu bois, tu t'amuses, tu chantes au banquet, et toi aussi, tu deviendras pierre. » Voilà l'histoire, et qu'est-ce qui arrive de Persée ? Il a encore des aventures avec Dionysos, je passe là-dessus, mais une fois qu'il a rendu la tête de la Gorgone Athéna, il rend à Hermès tout ce dont il a bénéficié, le casque d'Hadès, qui le rendait semblable à un mort en pleine vie, invisible. Il lui rend aussi, bien entendu,
les petites ailes
de ses sandales, les sandales d'Hermès. Il lui rend
la besace
et la faucille, et il redevient un homme comme vous et moi, mortel, et qui mourra pas tout à fait, parce que Zeus a décidé que cet homme qui a affronté le masque de la mort dans ce qu'elle a d'impensable, irreprésentable, mérite récompense. Et par conséquent, il en fait au ciel, sur la voûte nocturne du ciel, par une série de points lumineux, il dessine la figure de Persée dans la constellation qui porte son nom, et ainsi tous les hommes, à tout jamais, tant qu'il y aura des hommes et du temps, verront sur le ciel l'image de Persée, inoubliable à jamais. Alors voilà l'histoire, comment, avec cette espèce d'interrogation, d'une part cette mort dans son aspect le plus affreux, ce que les hommes ne peuvent pas rendre intelligible, ce qu'on ne comprend pas, Comment des êtres jeunes, beaux, qui ont leur individualité, peuvent à un moment disparaître et il n'y a plus rien. C'est impensable. Et la tête de la Gorgone traduit cette horreur de l'indicible, de l'impensable, de l'irreprésentable. Un être qui est quelque chose, qui se dissout, qui devient rien. Un être qu'on a vu vivant et qui devient un cadavre glacé et ensuite qui se putréfie. C'est ça que la Gorgone représente. Et c'est ça que, d'une certaine façon, l'histoire pointe vers l'idée que cela même qui est irreprésentable et impensable, la mort d'un être vivant, on peut la civiliser, on peut le, comment dirais-je, le rendre vivable sous forme de représentation, sous forme de l'homme, de pouvoir figurer ce qui n'a pas de figure, de pouvoir traduire dans un récit ce que aucune description ne peut arriver à rendre intelligible. Pouvoir de l'art, pouvoir de l'imagination, de l'imaginaire, de l'image, qui est en quelque sorte la seule arme que nous avons en face de ce qui nous dépasse totalement, parce que c'est la marque de notre condition mortelle.
Jean-Pierre Vernant, on voit bien comment les mythes grecs ont tenté, sinon de répondre, du moins d'interroger les grandes questions, dont celle de la mort. Mais à côté de Gorgo, il y a aussi Thanatos, et ça, c'est une toute autre forme de mort.
Oui, bien entendu. Si vous voulez, d'abord, je dirais qu'il y a des figures féminines de la mort chez les Grecs, comme la Gorgone, ou comme d'autres encore, qui nous sont décrits comme des êtres féminins sur le champ de bataille, qui se repaissent du sang des blessés qui les dévorent. Et puis il y a une figure masculine, la mort masculine, qui correspondrait à ce que j'ai appelé la belle mort, la mort héroïque, la mort qui transforme le jeune garçon en une sorte de modèle que on se remémorera à travers tous les siècles et qui est là, qui trône en sa beauté, une beauté immuable, parce que la mort ne peut plus l'atteindre puisqu'il a déjà traversé. Alors ce Thanatos, lui, il n'est pas affreux, il représente toute civilisation qui est affrontée à la mort, comme elle est affrontée à la bisexualité, essaye de civiliser cette mort, qui est en même temps au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. De la civiliser comment ? Ben, par des rituels funéraires, par des exercices de commémoration, par une façon d'imaginer un au-delà où les morts ne sont plus vivants, mais ils continuent de mener une vague existence. Et les Grecs ont essayé, eux, dans leur politique, pour intégrer la mort à la vie cultivée, d'imaginer cette immortalité en gloire. Et Thanatos représente un peu ça. Je veux dire que quand il y a des images de Thanatos, alors ça n'est pas quelque chose qui est indicible et qu'on ne peut pas figurer. On le voit, il y a un vase très connu où on voit Thanatos et son frère, Hypnos. Et déjà l'idée qu'on a affaire à deux frères, Hypnos...
C'est le sommeil.
Ben oui, c'est le sommeil, bien sûr. Mais en même temps, c'est pas un personnage terrifiant. Ils font couple, ils sont deux frères. Et ils sont représentés venant sur le champ de bataille pour enlever du champ de bataille le cadavre de Sarpédon, le fils de Zeus, qui est mort, et qu'il faut transporter chez lui pour qu'on lui fasse les funérailles qui convient. Et comment est-ce qu'on les imagine ? Ça n'est plus cette espèce de monstre avec ses yeux, avec sa face féminine, avec sa barbe et ses dents d'animaux, sa langue projetée comme un sexe au dehors. Non, pas du tout. Ce sont deux magnifiques guerriers en tenue guerrière, avec le casque, avec la cuirasse, des gens dans la force de l'âge. Ils sont beaux à voir, comme le mort, qui est mort dans les bonnes conditions, héroïque sur le champ de bataille. La formule qu'il y a dans l'Iliade, c'est « tout est beau dans le cadavre d'un jeune homme qui a été tué dans ces conditions ». Panta kala, panta ioike, tout est beau, tout sied, tout convient à ce cadavre, voilà. Et ce Thanatos, lui aussi, en lui tout est beau, tout sied. C'est la mort héroïque, la mort masculine. Et l'autre, c'est une mort à visage monstrueux, et c'est une mort affreuse. Et bon, comment est-ce qu'on peut la civiliser ? Voilà. D'un côté, la gloire immortelle, de l'autre côté, peut-être, les images, la littérature, les mythes, les récits, où on aperçoit un personnage qui est capable de lui couper la tête.